Très bien. Donc cet après-midi, vous avez vu, on décale un petit peu le propos. Donc d'une part, nous avons quitté le premier cycle, l'université, pour aller du côté des BTS et du UT. Et maintenant, donc, avec Laetitia Gérard, nous allons quitter le premier cycle pour aller du côté du master, mais surtout du doctorat. Donc Laetitia Gérard est docteur en sciences d'éducation et chercheur associé donc, au laboratoire de sciences d'éducation de l'université de Lorraine.
C'est ça, oui.
Voilà.
Et donc mon job, c'est je suis consultante internationale en pédagogie de l'enseignement supérieur. Alors ici, c'est une présentation sur l'accompagnement des recherches. Combien y a-t-il de directeurs de recherche parmi nous ?
Pas si fort.
Levez les mains. Il y en a si peu que ça ? Et combien de doctorants ou masterants ? À peu près ? Ok. Alors, je vais commencer par une première diapo sur le taux d'abandon. C'est pas pour décourager les doctorants, hein, on est bien d'accord. Alors, le taux d'abandon en doctorat tend à diminuer, mais, il y a un mais, on en parlait avec Marianne Freinet, on n'a pas véritablement les taux d'abandon nationaux des doctorants. Donc ici, il y a une recherche qui a été menée sur la génération 98, enquête du CEREC, qui dit que voilà, il y a 60% d'abandon chez les SHS et à peu près entre 10 et 30% chez les sciences exactes. Et sur les rapports de l'EARS, l'HCRS, un peu plus récent, en 2010, on arrive à des taux qui se réduisent. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça montre que les mesures institutionnelles qui ont été menées pour réduire la durée des thèses, pour réduire les abandons, voilà, ça porte leurs fruits. Alors, les raisons de l'abandon. Toutes les recherches s'accordent, s'accordent sur le fait qu'il y a trois principales raisons d'abandon en doctorat. Vous avez les raisons financières. Bon, ben ça explique, vous le savez, ça explique le taux d'abandon énorme, notamment en sciences humaines et sociales. Vous avez les raisons personnelles, une maladie, rapprochement de conjoint, vouloir fonder une famille. D'ailleurs, vous n'imaginez même pas le nombre de mails que je reçois de doctorantes désespérées, que je ne connais pas, et qui me disent, voilà, je dois choisir, je suis en première ou deuxième année de doctorat, je dois choisir entre mon copain ou ma thèse. Bon, alors là, je préconise de choisir la thèse en général. Hein. Et vous avez toutes les raisons académiques. Le doctorant qui n'est pas assez intégré dans le laboratoire, la relation qui se passe mal avec le directeur, le sujet de thèse qui, voilà, on commence déjà à saturer au bout d'un ou deux ans de son sujet de thèse. Et bien sûr, et oui, ça arrive, les directeurs ne sont pas tous jeunes. Il y en a qui meurent. Donc, il y a des abandons qui sont liés à ça, décès des directeurs de thèse. Donc, vous l'aurez compris, ici, il y a une grande part liée à la relation, une grande part d'abandon qui est liée à la relation entre le directeur de recherche et le doctorant. Et les recherches s'accordent sur le fait que la relation d'accompagnement joue sur la durée du doctorat, la réussite, donc la soutenance ou non-soutenance, soutenance dans les temps ou pas, le bien-être du doctorant, oui, c'est important. On verra par la suite, il y en a qui sont dans une situation d'exploitation assez inimaginable. La satisfaction globale quant à l'expérience doctorale et les compétences développées. Parce que, en fonction de la posture du directeur, le doctorant va développer plus ou moins des compétences. Si on est dans un style trop directif, il n'aura pas l'espace nécessaire pour développer ses compétences, mais si on est dans une posture trop laxiste de suivi, là, le doctorant n'aura pas le cadre nécessaire pour développer ses compétences. On y reviendra. Donc ici, je vais vraiment aborder la relation d'accompagnement entre le directeur et le doctorant, mais je suis bien évidemment consciente que la relation d'accompagnement, ce n'est pas que la relation duale. Ça s'inscrit ici dans tout un schéma, c'est le schéma de Denis Berthiaume, voilà, qui dit il y a le jeune chercheur, il y a le directeur de recherche, il y a le programme, donc l'école doctorale, toutes les formations qu'elle propose, et tout ça s'inscrit dans un environnement culturel, disciplinaire et national, bien évidemment. Mais moi, ici, je vais centrer uniquement sur cette relation duale d'accompagnement, parce qu'elle reste quand même la relation centrale. J'aborderai dans un premier temps la relation et ses effets sur la réussite du doctorant. J'aborderai aussi, et là, les directeurs de thèse seront très contents de savoir qu'ils ne sont pas les seuls responsables de l'abandon de leur doctorant. Le doctorant a une part de responsabilité dans sa réussite. Et la part de responsabilité du directeur de thèse dans la relation d'accompagnement et ses effets sur la réussite. On verra notamment les binômes à risque. Est-ce qu'il y a des directeurs de thèse qui encadrent des doctorantes? Combien y en a-t-il? Voilà. Donc on verra un peu qui sont ces binômes à risque. Alors au niveau de la relation d'accompagnement, les recherches disent qu'il y a trois principaux facteurs de réussite. Il y a l'intégration du jeune chercheur dans la communauté scientifique, l'explicitation ou non des rôles de chacun, il y a beaucoup d'implicites dans la relation d'accompagnement, et l'attention particulière portée à la gestion de l'affect, et c'est ici qu'on abordera les fameux binômes à risque. Alors concernant le premier facteur, donc la socialisation du doctorant, qui est un facteur de réussite en doctorat. Alors le doctorant qui entre en doctorat, bon, il s'aperçoit très bien qu'il y a des normes formelles, explicitées, à respecter. Ça c'est clair. Par exemple, comment s'inscrire en doctorat, comment aller chercher telle ou telle info sur la soutenance. Ça c'est bon, c'est explicité, c'est clair. Bon, des fois, il faut aller chercher un peu loin les infos et c'est un peu compliqué à les trouver, mais disons qu'elles sont là. Elles ont au moins le mérite d'être là. Mais le doctorant doit aussi découvrir et s'approprier des normes informelles qui ne sont pas explicitées. Elles ne sont pas explicitées parce qu'elles sont considérées comme des allants de soi par la communauté scientifique. Par exemple, quoi dire et quoi ne pas dire en réunion ? Comment s'habiller ? L'écriture scientifique. Je me rappelle le jour où ma directrice, qui est présente d'ailleurs dans la salle, m'a dit, j'étais en première année, m'a dit « Bon, maintenant, il va falloir écrire de manière scientifique. » Alors moi, j'étais là. « Ah, ok, c'est quoi l'écriture scientifique ?» Alors elle m'a dit « Allez lire des articles !» Ok, donc j'ai lu des articles, j'ai toujours pas compris ce qu'était l'écriture scientifique. Donc c'est grâce à ses retours sur mes écrits, elle a eu beaucoup de patience d'ailleurs sur ce point-là, où j'ai commencé à comprendre, à décoder ces implicites-là. Donc c'est vraiment pas simple pour le doctorant de décoder tout ça. Il apprend sur le tas, il apprend par expérience de l'action, en faisant, par essai, erreur. Moi c'était plutôt par erreur d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est assez périlleux parce qu'il y a un risque de mise à l'écart de la communauté scientifique. J'en mettrai ma main à couper, bon, peut-être la phalange du petit doigt, qu'un doctorant en droit avec une crête bleue sur la tête serait mis en l'écart du labo. Je pense que, voilà, il y a des codes. Il y a des us et coutumes, si elles ne sont pas découvertes, si elles ne sont pas appropriées par le doctorant, il y a un risque de mise à l'écart. Et là, le rôle du directeur, c'est ça, c'est plus il va essayer de mettre en place des séminaires, pousser le doctorant à aller en conférence, etc., plus le doctorant va avoir la possibilité de décoder ses us et coutumes en discutant avec les autres et en observant surtout. On apprend beaucoup par l'observation. Et donc, moins le doctorant sera enclin à abandonner. À votre avis, quel est le profil des doctorants qui ont le plus de difficultés à découvrir ces implicites, ces us et coutumes de la culture scientifique? Je vous laisse réfléchir. Alors, le profil? Oui? Ceux qui ne sont pas des héritiers, oui? Donc plutôt issus de milieux populaires. Filles ou garçons? Discipline? Sciences humaines, oui? Et c'est bien sûr les filles. Et les doctorants étrangers. Donc ça, ce sont les doctorants qui ont le plus de difficultés à découvrir tous ces us et coutumes, ces normes implicites et informelles. Alors le deuxième facteur de réussite, c'est l'implicite au sein du binôme. Il y a énormément d'implicites au sein du binôme. Et bien évidemment, ça a des effets sur la réussite. Je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, les masterants et les doctorants en première, deuxième année, début de doctorat, sont plutôt dans l'attente d'une relation, d'un soutien psychologique de la part de leur directeur de thèse. Ils attendent un soutien psychologique. Et ils considèrent que c'est le rôle du directeur de leur apporter ce soutien psychologique. Sauf que lorsqu'on va voir du côté des directeurs, ils disent « mais non, ça c'est pas mon rôle du tout. Moi mon rôle c'est d'accompagner l'individu, de soutenir le jeune chercheur, mais moi je me centre sur la tâche, je suis pas là pour faire du soutien psychologique. » Donc vous voyez, il y a une différence entre la perception des rôles de chacun. Ce qui fait que le doctorant il est là « oui, mon directeur il me soutient pas, il m'aime pas, il aime pas mon sujet, il me laisse tomber. » Pof, après, forcément, ça a un effet sur la réussite, sur l'abandon, disons. Un autre exemple, issu de mes recherches, il y a un jeune chercheur qui disait « Mon directeur, de toute façon, il me met plein de critiques sur mes textes, je suis nul, je me sens vraiment nul, à chaque fois que je réécris, c'est jamais bien, il y a toujours plein de critiques. » Moi, je vais interroger le directeur. Le directeur, il me dit, mais plus j'annote, plus ça veut dire que je suis intéressée par le sujet. Et je lui dis, mais vous dites quand ça va, des fois, ou pas? Il dit, non, si ça va, je ne vais pas mettre ça va, ça va, ça va, ça va. Quand ça va, je dis pas que ça va. Ah, oui, mais là, il y a une différence entre les deux. Du coup, l'étudiant, le jeune chercheur, se disait, moi, je suis nul, je me sens nul. Et après, ça a des effets, bien évidemment, sur l'abandon. Parce qu'il y a eu trop d'implicites. Si le directeur lui avait dit, écoutez, quand ça va, je ne mets pas. Quand je suis intéressé, plus je suis intéressé, plus j'annote. Là, il y aurait eu moins de tension au sein du binôme. Donc, il faut vraiment dire les choses. De la même manière, si le directeur de thèse considère que ce n'est pas son rôle de soutenir psychologiquement, qu'il le dise. Moi, écoutez, moi, mon rôle, ce n'est pas un soutien psychologique. Alors, justement, au niveau des insatisfactions, j'ai mené une recherche avec Amaury Dahl là-dessus, sur un public de 600 doctorants. Il y en avait 19% qui étaient très insatisfaits de leur direction de thèse. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce qu'au niveau international, c'est beaucoup plus que ça. À votre avis, quel est le profil de ces étudiants insatisfaits? Alors, filles ou garçons? Non, filles. On est plus exigeantes aussi, Nous, on fait la qualité, hein, le top du top. On ne se contente pas de... Après, début de thèse ou fin de thèse? Fin? Oui? Et discipline? SHS, comme d'habitude. On aime bien râler. Les doctorants en fin de parcours, doctorantes et SHS, qui sont les moins satisfaits de leur direction doctorale. Alors, on a identifié 643 insatisfactions formulées, et le top 5 des insatisfactions était le manque de disponibilité et d'accessibilité du directeur. Mais là aussi, ça peut venir d'un manque d'explicitation des choses. Hein. Si le directeur disait, par exemple, bah, écoutez, moi, je ne serai pas disponible toutes les semaines, hein. N'attendez pas ça de moi, moi, c'est une fois par mois et pas plus, ou une fois par an, bon, bah, le doctorant, il saurait à quoi s'en tenir, il ne serait pas insatisfait, il irait voir ailleurs. Le manque d'autonomie ou trop d'autonomie, donc là, vous vous doutez bien, en SHS, trop d'autonomie, en sciences exactes, pas assez d'autonomie. Trop cadré. Mauvaise qualité des rétroactions, donc ça soit par écrit ou par oral. Aucune préoccupation de l'après-doctorat. C'est-à-dire que les doctorants aimeraient bien que le directeur les accompagne au-delà du doctorat pour leur insertion professionnelle. Là, ça pose la question, est-ce que c'est le rôle du directeur? Et puis, mauvaise communication au sein du binôme. Je me rappelle, il y avait une doctorante qui me disait « Ma directrice m'a dit qu'elle parlait à ses doctorants comme à ses chiens. » Ok, ça met dans l'ambiance. Il y en a un autre qui disait « Mon directeur, il m'appelle machin, l'autre zig. » Donc, bon, la communication ici n'est pas optimale. Le troisième facteur de réussite, c'est la gestion de l'affect. Et là, nous arrivons au binôme à risque. Les fameux binômes directeur-jeune chercheuse. Et là, ça mériterait plus ample recherche sur le sujet, parce qu'elles sont quand même rares. Et c'est toujours des recherches sur un petit échantillon. Donc il faudrait vraiment mener ces recherches à plus grande échelle pour voir ce qui se passe dans ces binômes-là, parce qu'on trouve des choses assez hallucinantes. Notamment, donc là c'était une de mes recherches, on rencontre donc les doctorantes, dès qu'elles rencontrent une difficulté, alors celles qui sont sous la direction d'un homme, hein, dès qu'elles rencontrent une difficulté, ah ben elles ne vont surtout pas voir leur directeur. Ben non, ce serait une marque de faiblesse. Il y en a qui me disaient, ben attends, je ne veux pas qu'ils sachent que je suis incompétente, quand même. Donc là, voilà, donc elles se privaient du net parce qu'elles n'allaient pas le voir. Elles ne vont pas le voir. C'est typique des binômes directeur-étudiante, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment typique ce qu'on retrouve dans ces binômes-là et pas forcément dans les autres. Hein. Donc, elles se privent du net parce que dès qu'elles sont en difficulté, ben, elles ne vont pas voir le directeur, alors que ben précisément, lorsque tu as une difficulté, tu vas voir ton directeur, normalement. Aussi, elles évitent les rencontres duales. Elles s'arrangent toujours pour les rencontrer ailleurs, dans des séminaires, ou dans des pots, ou dans des... mais dans des lieux où il y a du monde. Jamais seul à seul. Le troisième point, c'est, voilà, dans leur discours, on trouve des éléments qui rappellent l'autorité paternelle, qu'on ne discute surtout pas. Il y en a qui disaient, lui, mon directeur, il tape du poing sur la table, il fait les gros yeux, il est sévère, toutes ces choses-là, ce champ lexical un peu paternel. Après, il y a tout ce qui est relations ambiguës, vous vous en doutez. Pour aller dans l'extrême, il y en a une qui se faisait masser au bord de la piscine par son directeur. Une autre qui a encore des relations intimes avec son directeur. Bon, voilà, ça c'est... Vous connaissez certainement des directeurs qui ont épousé leur doctorante. Et les attentes différentes. Ces jeunes chercheuses-là attendent un lien affectif, un lien, une humanité qu'elles ne retrouvent pas auprès de leur directeur. et qu'elle retrouve beaucoup plus auprès des directrices, pour celles qui sont en co-direction notamment. Donc tout ça, forcément, ça a un effet sur la réussite parce que la recherche le montre, hein, les jeunes chercheuses ont significativement moins de rencontres avec leur directeur que les autres binômes. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Il faudrait mener une recherche de plus grande envergure sur ces binômes-là. Bon, quelques autres facteurs de réussite qu'on retrouve dans la littérature, bon, c'est du bon sens, hein. Plus on rend des écrits réguliers, plus on a de chances de réussir, des feedbacks constructifs, rencontres fréquentes, disponibilité, accessibilité. Alors voici maintenant la part de responsabilité des jeunes chercheurs dans leur réussite. N'incriminons pas toujours le directeur. Là aussi, ça mériterait d'être creusé parce qu'il y a peu de recherches là-dessus. Là, c'est ma recherche, parce que je n'ai rien trouvé d'autre sur la part de responsabilité du jeune chercheur dans l'accompagnement et ses effets sur la réussite. Ce que j'ai pu observer, c'est que le jeune chercheur qui réussissait, c'était celui d'une part qui arrivait à percevoir les implicites et à trouver des modes compensatoires. Les implicites, par exemple, il y en a une qui me disait « Ah ben écoute, qui me disait bah, « Moi, mon directeur, c'est moi qui le contacte. » Je dis « Vous en avez discuté ? Comment ?» Il me dit « Non, il ne me contacte jamais, donc c'est logique, ça veut dire que c'est à moi de le contacter. » Donc là, voilà, il avait perçu les implicites. Et les modes compensatoires, ceux qui sont en réussite, c'est ceux qui vont, par exemple, je vous donne un exemple, mon directeur n'est jamais disponible. Ceux qui sont dans un mode de réussite, c'est ceux qui disent « Ok, il n'est pas disponible, je vais faire relire mon écrit à quelqu'un d'autre, je vais trouver une autre personne ressource, etc. » Par contre, ceux qui restent sur un mode attentiste comme ça, oh, « Mon directeur, il n'est pas disponible. Oh, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, j'envoie des mails, mais bon, il ne répond pas. » Bon, ça, c'est pas un mode compensatoire très favorable à la réussite. Et maintenant, la part de responsabilité du directeur de recherche dans la réussite du jeune chercheur. Les recherches s'accordent sur le fait qu'il y a trois principaux facteurs de réussite. L'intégration du directeur de recherche dans la communauté scientifique, s'il veille à l'épanouissement du jeune chercheur et sa posture de recherche de directeur. L'intégration, alors là, il n'y a qu'une recherche que j'ai trouvée sur le domaine, donc là aussi, ça vaudrait le coup de creuser. C'est une recherche qualitative, donc ce n'est pas sur un gros échantillon. Cette recherche montre que le directeur qui n'est pas bien intégré au sein de son laboratoire ou dans sa communauté scientifique, pour les jeunes chercheurs qui l'ont comme directeur, ils sont plus enclins à abandonner. Ou alors le directeur qui travaille sur des sujets complètement différents du laboratoire, là aussi, ces jeunes chercheurs sont plus enclins à l'abandon. L'épanouissement, avec toutes les dérives que l'on connaît, dérives scientifiques, ça bien sûr c'est des cas extrêmes, hein, dans la plupart des cas ça se passe bien, hein. Dérives sexuelles. Alors dérives scientifiques, la surdirection. Maintenant, la thèse, c'est 3 ans. Donc, il y a des directeurs qui ont tendance à vouloir presque faire à la place, hein, pour être dans les temps. Donc, ça pose bien évidemment le problème de « Bah oui, il a un doctorat, mais est-ce qu'il a développé les compétences ?» Pas sûr. La surpublication. J'ai un doctorant qui me disait « Dans mon labo, je suis considérée comme une machine à produire des articles. On en prend un bon, on le divise en 3 mauvais. Au détriment, bien évidemment, de la thèse. Hein, parce que machine à produire des articles, on ne peut pas faire sa thèse en parallèle. Hein, c'est pas possible. L'exploitation, il y a des doctorants qui me disaient « Je suis obligée de venir travailler de 7h à 21h tous les jours, week-end compris. » Et un autre qui me disait « Je dois venir travailler la nuit. » Bon, c'est pas en SHS que ça se passe, vous vous en doutez. Et les dérives sexuelles, il y a pas mal de recherches qui ont été menées sur le sujet, mais c'est toujours des recherches très qualitatives. Donc tout ça, bien évidemment, a un effet sur la réussite et l'abandon. Troisième point et dernier point. La posture du directeur va avoir un effet sur la réussite. Si vous êtes dans une posture de conseil, c'est plus propice à la réussite. Par contre, si vous êtes, comme je disais tout à l'heure, dans une posture de conduite, si on a le chemin de l'accompagnement, la conduite, vous êtes devant. Le jeune chercheur est derrière, il suit. Donc là, ça pose la question de est-ce qu'il a un cadre, un espace suffisant pour développer ses compétences ? Et si on imagine toujours ce chemin de l'accompagnement, le suivi, donc vous êtes derrière, le doctorant, il fait par essai erreur, il fait ses erreurs, vous suivez de loin, là, ça pose la question de est-ce qu'il a l'espace, le cadre suffisant pour développer ses compétences ? Et bien sûr, il faut une posture qui soit adaptée aux jeunes chercheurs. Chacun a des besoins différents. Il y en a qui sont plus autonomes que d'autres. Et bien évidemment, vous le savez, votre posture va évoluer dans le temps avec plus de directifs au début et plus de suivi à la fin. Alors, quelques zones d'ombre. La réussite. Qu'est-ce qu'on cherche ? De quoi on parle ? C'est quoi la réussite en doctorat ? Est-ce que c'est avoir soutenu ? Est-ce que c'est avoir soutenu dans les temps impartis ? Est-ce que c'est avoir obtenu la qualification ou est-ce que c'est avoir développé les compétences ? Et ce qui pose la question de quelles compétences on veut que le doctorant ait développé. Imaginez, c'est comme si vous organisez un voyage, vous voulez aller en Écosse. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de partir comme ça du jour au lendemain sans prendre de bagages, sans avoir fait le trajet, sans avoir acheté de billets d'avion. Mais là, c'est pareil, on est en train de faire un doctorat, mais en fait, on ne sait pas quelles compétences on veut que le doctorant, le docteur ait développé à la fin. Alors comment on va pouvoir l'accompagner puisqu'on ne sait pas quelles compétences on veut développer ? Donc là, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Et il y a notamment l'Université de Genève. Eux, ils ont déjà résolu cette question-là. Puisque lorsque vous avez le diplôme de doctorat, vous avez avec le référentiel de compétences qui montre que voilà, vous avez votre diplôme et vous avez développé les compétences transversales de communication, de pédagogique, etc. Des pistes de perfectionnement, donc qu'est-ce qu'on pourrait étudier d'autre ? À savoir que les recherches sur l'accompagnement sont majoritairement qualitatives et en éducation. Donc déjà, on peut se questionner sur les binômes de sexe opposé à plus grande échelle, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Les pratiques réelles, souvent on interroge, donc ce sont par entretien, donc on interroge les directeurs de thèse, les meilleurs directeurs de thèse, les étudiants, les doctorants, les docteurs, les abandonneurs, mais finalement les pratiques réelles là-dedans, qu'est-ce qui se passe au sein du binôme réellement ? Les mécanismes de proaction, qu'est-ce qui fait qu'un doctorant sera plus proactif qu'un autre ? Ça aussi, ça peut être étudié. Une étude longitudinale, donc ça, c'est pour ça que la recherche de Marianne Freinet m'intéresse bien, parce que justement, c'est une étude longitudinale. Et ça manque beaucoup. Voilà, des enquêtes plutôt quantitatives, ça manque. Et je termine par cette diapo-là. Direction plurielle, parce qu'il y a de plus en plus de co-direction, de comité de thèse. Alors là, est-ce que ça change quelque chose ? De quel point de vue ? Plus de recherches sur les sciences dures, voilà. Et comme il y a de plus en plus aussi de formation à la direction de recherche, ben est-ce que ça a un effet sur la qualité de l'encadrement ? Même si ceux, bien évidemment, qui vont se former à la direction de recherche sont ceux qui en ont le moins besoin. Ça, on le sait. Voilà, donc, si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un livre, Le doctorat, un rite de passage. Voilà, merci.
Ah, la La parole au jury.
Voilà, je me présente, Jean-Marie de Quetel. Je suis l'ancêtre dans ce jury, parce que la